Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Hormé-Juste et cette semaine au podcast, eh bien, on va faire un tour d'horizon des rencontres qui étaient présentées dans la NFL en cette 13e semaine d'activité. Il n'y a plus de Ligue canadienne. Bon, la saison s'est terminée la semaine dernière, bien sûr, avec la présentation du match de la Coupe Grey, mais c'est la fin de la saison. On s'approche du dernier quart de la saison du côté de la NFL. Et encore une fois, les Ravens de Baltimore nous ont démontré en défaisant les 49ers de San Francisco qu'ils sont l'équipe à battre présentement du côté de la NFL, alors que les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se sont inclinés face aux Texans à Houston et c'était vraiment une défaite inquiétante du côté des Patriots. Toutefois, comme Tom Brady l'a dit aujourd'hui, les Patriots n'ont pas une fiche de 2 victoires et 10 revers. Ils ont toujours un dossier de 10-2, mais quand même, c'est inquiétant cette défaite du côté de la Nouvelle-Angleterre. Alors, on va faire un tour de toutes les rencontres qui étaient présentées dimanche. Le podcast Le Sac du Cœur commence à l'instant. Le duel que tout le monde avait hâte de voir mettait aux prises les Ravens de Baltimore qui recevaient les 49ers de San Francisco, probablement les deux meilleures équipes de la NFL, les Ravens du côté de l'Américaine et les Niners du côté de la Nationale. Baltimore l'a emporté par la marque de 20-17 dans un match où il faisait très froid. Il y avait de la pluie, il y avait du vent. Alors, malgré tout, on a eu droit quand même à un bon spectacle là, malgré la température qui était maussade à Baltimore. Les Ravens ont emporté à la suite de placement de Justin Tucker sur une distance de 49 verges. Tucker, malgré tout là, les éléments, malgré la pluie, le vent, le froid, eh bien, il a réussi un placement sur 49 verges. C'est pas peu dire afin de faire gagner les Ravens de Baltimore. La dernière séquence des Ravens a vraiment été dominante au sol. Ça a duré 6 minutes et 28 secondes. Donc, on a enlevé tout le temps afin d'y aller du placement victorieux. Et c'est une victoire qui est d'autant plus impressionnante du côté de Baltimore, parce que là, les Ravens, ils étaient dans la portion difficile de leur calendrier et ils ont passé tous les tests jusqu'à présent. Ils ont défait les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Seahawks de Seattle, les Texans de Houston qui sont complètement écrasés. Et là, ils ont vaincu les 49ers de San Francisco par 3 points. San Francisco a toutefois été, selon moi, impressionnant. Lors de cette rencontre, ça a été une bonne performance à part des Niners, parce que comme je l'ai dit, là, bon, les éléments, la nature, le froid, le vent, tout ça, la pluie, mais en plus de ça, le match avait lieu à Baltimore. Alors, de faire le voyage d'ouest en est, de partir de San Francisco pour se rendre jusqu'à Baltimore, jouer un match à 13h, qui est à 10h, heure de l'ouest, et d'offrir ce genre de performance du côté des Niners, je pense que ça, c'est vraiment, mais vraiment quelque chose d'encourageant face à une équipe de qualité comme celle des Ravens de Baltimore. Mais pour les Niners, ben eux, ils sont vraiment dans la portion corsée de leur calendrier, parce que la semaine prochaine, ils vont se rendre à la Nouvelle-Orléans pour affronter Drew Brees et les Saints. Mais en raison de la ligne défensive qu'on a du côté de San Francisco, je pense qu'on pourrait être en mesure de vaincre la Nouvelle-Orléans au Superdome. Mais vraiment, ça a été un excellent match de football entre les Ravens et les 49ers. Encore une fois, Lamar Jackson avec Mark Ingram dans le champ arrière, ça donnait des maux de tête dans la défense des Niners. On voyait lorsqu'on utilisait le jeu de l'option, on croyait qu'Ingram avait le ballon, et très souvent, bien non, c'était Lamar Jackson qui l'avait, qui était en mesure d'aller chercher un gain de 15-20 verges en courant. Alors, même face à une défense comme celle des Niners, bon, on voit que Jackson donne des maux de tête. Et en plus de ça, c'était sous la pluie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ça fait en sorte que Jackson était peut-être moins rapide qu'à l'habitude que s'il avait joué sur une surface qui était sec. Mais malgré tout, on a vu qu'il était le joueur le plus rapide sur le terrain. Alors, est-ce qu'on va revoir ces deux équipes s'affronter? Si c'est le cas, ben, ça va avoir lieu lors du Super Bowl de Miami au mois de février. Mais encore une fois, les deux équipes nous ont offert un bon spectacle. Je ne crois pas qu'on a à rougir du côté des 49ers de San Francisco de s'être incliné contre les Ravens de Baltimore. Mais ça a vraiment été un match de qualité entre deux vraiment, mais vraiment très bonne formation. Maintenant, dans un match où ce n'était pas deux très bonnes formations qui s'affrontaient, les Bengals, eh bien, ils ont donné une raclée aux Jets de New York par la marque de 22-6. Andy Dalton effectue un retour au jeu du côté de Cincinnati. Les Bengals, bon, finalement, ils ont décroché leur toute première victoire de la saison, mais Cincinnati aurait gagné son premier match de la saison il y a longtemps là, si on n'avait pas cloué au banc Andy Dalton au profit de Ryan Finley. Bon, Finley est un jeune carrière, on voulait voir ce dont il était capable. On s'est rendu compte qu'il n'a pas nécessairement le potentiel afin de devenir un carrière partant du côté de la NFL. Alors, c'est la raison pour laquelle on a ramené Andy Dalton dans la formation, surtout qu'on... Les joueurs savent que Dalton est un meilleur carrière que Finley. Alors, pour l'entraîneur des Bengals de Cincinnati, il ne peut pas continuer de faire jouer Finley comme ça lorsqu'on a une meilleure option sur les lignes de côté. Peu importe qu'est-ce qu'on pense d'Andy Dalton, mais il reste que c'est un carrière compétent. C'est un carrière qu'on a déjà vu mener la NFL au chapitre des passes de toucher lorsqu'il est bien entouré. Mais là, la formation des Bengals, bon, elle commence à être dépourvue de talent, notamment au niveau de la ligne à l'attaque. Mais peu importe, c'était une bonne performance de Cincinnati, qui a gagné par la marque de 22-6. Carlos Dunlap a réussi 3 sacs aux dépens de Sam Darnold. Alors, ouais, je crois que ça fait le tour pour cette rencontre quand même. On parle de deux équipes qui ne vont pas s'affronter, qui ne vont pas participer plutôt aux éliminatoires. Les Titans du Tennessee sont allés à Indianapolis et ils ont vaincu les Colts par la marque de 31-17. Le point tournant de la rencontre, bien, ça a été une tentative de placement d'Adam Vinatieri qui a été bloquée et retournée pour un toucher du côté des Titans du Tennessee. Les Titans sont une formation que j'aime bien, notamment depuis que Ryan Tannehill est au poste de quart. Alors, on a maintenant une fiche de 5 victoires et une défaite au Tennessee avec Tannehill comme carrière. Puis c'est quelque chose, moi, je me disais lors des deux dernières années, si les Titans avaient une meilleure performance, avaient plus de production à la position de carrière, il me semble que ça serait une équipe qui devrait connaître du succès. On sait les ratés qu'a connus Marcus Mariota. Et même lors du camp d'entraînement, je me souviens, je disais, bon, des articles des gens qui couvrent quotidiennement les Titans du Tennessee. Durant le camp d'entraînement, c'était unanime. Tout le monde disait que Ryan Tannehill connaissait un meilleur camp d'entraînement et que c'est lui qui devrait être le carrière partant au début de la saison. Bon, c'est que Mariota a été le deuxième joueur sélectionné du repêchage, son ancien choix de première ronde. Alors, naturellement, on a été très patient à son endroit, mais on le voyait depuis le début de la saison, ça n'allait vraiment pas pour Mariota. Et surtout qu'on a une bonne formation du côté du Tennessee. On a une très bonne unité défensive. On a une très bonne attaque au sol avec Derrick Henry, qui est encore plus productif depuis que Tannehill est au poste de quart, parce que là, on ne peut pas juste concentrer nos efforts à utiliser toutes les ressources pour arrêter Henry et le jeu au sol, étant donné que Tannehill est en mesure de faire des jeux par la voie aérienne. Alors ça pour dire que Ryan Tannehill a été victime d'aucun revirement à ses 3 derniers matchs. Fiche de 5-1 comme partant. Henry contre les Colts, 26 courses, 149 verges et un touché. Et ça donne un dur coup aux chances des Colts de participer aux éliminatoires, 7 défaites pour Jacoby Brissett. Hein, ça fait quelques semaines qu'il joue sur une jambe, c'est un bon soldat. Mais hier, ça paraissait vraiment également, il a manqué de précision sur certaines de ses passes. Mais les Colts se sont amochés, ont encore une fois privé des services de Marlon Mack. Alors, moi, je pense vraiment que les Titans du Tennessee sont une équipe à surveiller afin de participer aux éliminatoires, peut-être même sont en mesure de se qualifier pour les éliminatoires, même de gagner au moins un match éliminatoire. Parce qu'avec la recette qu'on a, une bonne défense, le jeu au sol des Derrick Henry, on est rendu au mois de décembre, c'est le temps de l'année pour Derrick Henry. À 6 pieds 3 pouces, près de 250 livres, il est rapide, il est tellement puissant. Les Colts avaient beaucoup d'ennuis, ils étaient incapables de le plaquer. Puis c'est comme ça, là, face à toutes les équipes qui l'affrontent, c'est son temps de l'année. Par temps froid, on ne veut pas avoir à plaquer un gros porteur de ballon de près de 250 livres comme Derrick Henry. Alors avec Tannehill qui protège le ballon, qui fait suffisamment de jeux par la passe, moi je pense que les Titans pourraient peut-être causer au moins une surprise en éliminatoire. Sont en mesure, bien sûr, d'y participer, mais il semble que Tennessee va terminer au premier rang de la section sud du côté de l'Américaine. En tout cas, les Titans sont une des équipes de l'or. On joue vraiment de l'excellent football au Tennessee. Les Eagles de Philadelphie, ça a été vraiment un revers gênant. Philadelphie a perdu à Miami contre les Dolphins. Ce qu'il faut dire, bon, l'équipe des Dolphins de Miami, ce n'est plus la même formation qu'on voyait au début de la saison, au mois de septembre, qui se faisait écraser par une quarantaine de points contre peu importe l'équipe contre laquelle elle jouait. Les Dolphins sont grandement améliorés. On est compétitifs, du moins, on se bat, on se présente à chaque semaine. Pour les Eagles, perdre ce match-là, 37-31, ça c'est tout à fait inacceptable, surtout qu'on tente de rejoindre les Cowboys en tête de la section Est du côté de la nationale. Et les Cowboys ont été les grands victorieux de ce match-là, parce que Dallas a perdu, comme vous le savez, jeudi contre les Bills de Buffalo. Mais là, avec cette défaite-là, ben, ça fait en sorte que les Cowboys restent en tête de leur section. Du côté des Dolphins de Miami, on a joué vraiment comme une équipe qui n'a rien à perdre, mais ça fait quelques semaines que ça dure, là, qu'on fait ça du côté des hommes de Brian Flores. On utilise des jeux truqués. C'est ce qu'on a fait encore une fois face aux Eagles de Philadelphie. Et un des jeux truqués qui nous a permis d'inscrire un toucher. On a même tenté un botté court. Alors, on n'a absolument rien à perdre. On tente de gagner des matchs du côté des Dolphins par toutes les façons possibles. Grosse performance de la part du receveur de passe, Devante Parker, avec ses 7 réceptions, 159 verges et 2 touchés. Il était tout simplement trop gros pour les demi-coins des Eagles de Philadelphie. On le voyait, il se servait de son physique également afin d'aller chercher le ballon, de réussir les réceptions face au demi-coin des Eagles. La défense des Eagles qui avait bien joué là, depuis 3 semaines, 1 mois, mais là on a revu les mêmes faiblesses qu'on voyait au début de la saison. Et statistique intéressante que j'ai trouvée du côté de Philadelphie, on a maintenant une séquence de 40 matchs. 40 matchs au cours desquels aucun porteur de ballon n'a amassé 100 verges au sol. Ça, c'est vraiment tout à fait incroyable. Alors, on parle de... Idéalement, on va avoir un équilibre en attaque entre la passe et la course. Mais lorsqu'on n'est pas en mesure d'avoir un jeu au sol productif, bien, c'est difficile d'avoir cet équilibre-là. Miles Sanders, c'est lui qui a obtenu le départ dans le champ arrière en raison à la blessure de Jordan Howard. Il a pas mal fait. Il a même inscrit un touché. Mais Carson Wentz, encore une fois, Carson Wentz, lorsqu'on regarde les statistiques, ça paraît bien comme s'il a connu un bon match. Mais Carson Wentz est supposé être un carrière de concession. Et si tu as un carrière de concession, bien, tu es censé rendre les joueurs autour de toi meilleurs. Puis je sais que les Eagles de Philadelphie n'ont pas un bon groupe de receveurs, mis à part Alshon Jeffery, mais Alshon Jeffery est loin d'être un marchand de vitesse. On n'a vraiment pas de vitesse. On n'a pas de joueurs explosifs à la position de receveur du côté des Eagles de Philadelphie. Nelson Agholor était supposé être ce joueur-là, mais Agholor n'est pas fiable. Il échappe beaucoup trop de passes. Alors tout ça pour dire que Carson Wentz, à ses 23 derniers départs, il a une fiche de 10 victoires et 13 défaites. Pour un joueur qui est supposé être une superstar, en carrière de concession, je ne le vois pas élever le niveau de jeu de ses receveurs de passe. Alors, non, écoutez, c'est une saison décevante du côté des Eagles de Philadelphie, mais malgré tout, malgré le fait là, qu'on a maintenant qu'on a perdu et qu'on a maintenant une fiche de 5 victoires et 7 revers du côté des Eagles, bon, on est tout juste derrière les Cowboys, parce que les Cowboys aussi ne gagnent pas. Alors, on ne peut pas enterrer encore les Eagles de Philadelphie. Mais présentement, Philadelphie ne joue vraiment, mais vraiment pas bien. Et je sais que le calendrier des Eagles semble être favorable d'ici à la fin de la saison. Il ne leur reste que 4 matchs. Mais la façon dont Philadelphie joue, peu importe quelle équipe qu'on va affronter, je ne crois pas qu'on peut espérer connaître du succès. La preuve, on vient de perdre contre les Dolphins de Miami. Maintenant, à New York, les Giants recevaient la visite des Packers. Il n'y a pas eu de surprise. Green Bay l'a emporté par la marque de 31 à 13. Aaron Rodgers a connu un fort match. C'était quoi? 4 passes de toucher pour le carrière étoile des Packers de Green Bay. Moi, qu'est-ce qui m'inquiète du côté des Giants, ce sont les performances de Daniel Jones. Parce que Daniel Jones multiplie les mauvaises décisions. Il a été victime de 3 interceptions. Et je ne sais pas si vous avez vu les interceptions dont il a été victime, mais c'est vraiment de mauvaises, mais de très mauvaises décisions. Jones a été victime d'au moins un revirement au cours de chacun des 11 matchs au cours desquels il a joué. Donc, il n'est pas en mesure de protéger le ballon. Puis je suis pas certain, là, moi, que Daniel Jones, c'est vraiment un carrière partant au niveau de la NFL. Je sais, ça avait très bien commencé. Tout le monde en avait été impressionné par Jones lors de son tout premier départ contre les Buccaneers de Tampa Bay. Mais depuis, c'est comme s'il a régressé. Du moins, il s'est certainement pas amélioré là, au cours de la saison. Je veux pas être trop sévère à son endroit, étant donné qu'on parle d'un carrière recrue. Mais les revirements, ça, c'est la première chose qu'il doit améliorer. Il peut pas continuer de faire cadeau du ballon constamment, semaine après semaine, à l'adversaire, parce qu'il n'y a aucune façon que les Giants peuvent connaître du succès. Et l'autre chose côté des Giants, la défense est tout à fait atroce. Que ce soit au niveau de la tertiaire, que ce soit au niveau de la ligne défensive, où on n'est pas capable d'appliquer une pression constante sur les carrières adverses. Ça fait vraiment dur à New York. Maintenant, l'entraîneur-chef Pat Shurmur semble se retrouver sur un siège éjectable. Je peux comprendre pourquoi. C'est vraiment une saison de misère que les Giants se connaissent. Mais en même temps, je me dis, on s'attendait à quoi? Avant le début de la saison, on savait que les Giants allaient en arracher. Même si Eli Manning était carrière partant, ils sont remplacés par Daniel Jones. C'est pas comme si l'équipe soudainement allait grandement s'améliorer. Lorsqu'on regarde la formation des Giants, elle est vraiment dépourvue de talent. Mis à part Saquon Barkley, bon, il y a Evan Ingram, l'ailier rapproché, qui est un joueur explosif, mais il est constamment blessé. Où est le talent là, au sein de cette formation? J'ai parlé tout à l'heure bon, de l'unité défensive. Alors, Sherman se retrouve sur un siège éjectable. Je peux comprendre pourquoi, mais le directeur général, Dave Gettleman, c'est pas comme s'il a pris des excellentes décisions depuis qu'il est en poste. Alors, moi, j'ai hâte de voir à la fin de la saison ce qu'on va y aller d'un ménage complet du côté de l'organisation des Giants. J'ai vraiment l'impression qu'il faudrait le faire. Et les Steelers de Pittsburgh, ils croisent affaire avec les Browns de Cleveland. Bon, c'était le deuxième duel entre les deux équipes. On se souvient tous qu'est-ce qui est arrivé la première fois que les deux formations s'étaient affrontées. Bien sûr, Myles Garrett qui avait donné un coup de casque à Mason Rudolph. Bien, les deux joueurs n'étaient pas là, naturellement. Garrett étant suspendu. Et Mason Rudolph, bien, lui, il a perdu son poste de carrière partant au profit de Devlin Hodges. Et les Steelers ont gagné 20-13. Et un peu comme je viens de parler avec Daniel Jones du côté de Baker Mayfield, il doit mieux protéger le ballon. Encore une fois, victime de revirement du côté de Mayfield. Et en situation de troisième essai, c'est ce que j'ai pris en note, Baker Mayfield, hier, 4 en 12 en situation de troisième essai. Ça, c'est encore une fois un autre joueur qui se posait être un joueur de concession. Mayfield a été le tout premier joueur sélectionné lors du repêchage. Il ne fait pas produire ses receveurs. Oui, la semaine dernière, bon, il a connu un bon match, mais c'était contre les Dolphins. Mais lorsqu'on affronte moindrement de bonnes équipes, il n'y a aucune production de la part de Baker Mayfield. Odell Beckham, mon Dieu, écoutez, là, moi j'ai de la misère à croire que Beckham ne va pas demander à être échangé durant l'hiver, une fois que la saison sera terminée. Et écoutez, l'entraîneur-chef Freddie Kitchens, on l'a vu sur les médias sociaux, a été pris en photo avec un T-shirt sur lequel ça disait « Pittsburgh started it ». Pittsburgh a commencé en parlant justement là, de cette bagarre qu'il y a eu lorsque les deux équipes se sont affrontées il y a quelques semaines. Ça, c'est vraiment un manque de jugement de la part de Freddie Kitchens. C'est une chose pour les partisans de porter ces chandails-là, c'est bien drôle. Mais d'avoir l'entraîneur-chef qui porte ce T-shirt-là, qui se fait prendre en photo sur les médias sociaux en portant ce T-shirt-là, c'est vraiment un manque de leadership de la part de Freddie Kitchens. Bon, je disais ses commentaires aujourd'hui, il disait qu'il ne craignait pas pour perdre son emploi. Ben, il devrait vraiment, parce que c'est une équipe qui a du talent. Les Browns devraient afficher une bien meilleure fiche que leur dossier de 5 et 7. Et la priorité durant la saison morte, il n'y a aucun doute, ça va devoir être d'améliorer la ligne à l'attaque. Mais on va devoir également amener, selon moi, un entraîneur-chef qui va pouvoir challenger Baker Mayfield. Moi, si vous écoutez le podcast depuis l'été, je vous l'avais dit que je ne croyais pas aux Browns de Cleveland, mais là, cette défaite-là, bien, ça a pratiquement mis un clou dans leur cercueil. On avait encore espoir que peut-être Cleveland sera en mesure d'assembler une séquence victorieuse afin de participer aux éliminatoires, mais vraisemblablement, ça ne sera pas le cas. Alors que du côté des Steelers, on a une fiche de 7-5. On est sans les services de Ben Roethlisberger, sans les services de James Conner. On sait durant la saison morte, on s'est départi d'Antonio Brown. Le'Veon Bell est maintenant un porte-couleur des Jets de New York. On a des blessés, mais malgré tout, on continue, on trouve des façons de gagner du côté des hommes de Mike Tomlin. Alors, faut donner crédit à l'entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh. Il n'a pas eu peur de clouer au banc Mason Rudolph, qui en arrachait beaucoup. On a parlé bon, de ce qui est arrivé la dernière fois que les Steelers avaient affronté les Browns. Tout le monde après encore te parlait du geste que Myles Garrett avait porté à l'endroit de Rudolph. Rudolph, il a comme été chanceux dans tout ça parce que personne ne parlait après le match de sa contre-performance. Il avait été victime de 4 interceptions lors de cette rencontre et vraiment, il ne fait pas le travail. Et on le voit, Devlin Hodges, du moins hier, il a été beaucoup plus productif que Mason Rudolph ne l'aurait été. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de films sur Rodgers, donc ça va être quelque chose à surveiller là, au cours des prochaines semaines, si les défenses vont être en mesure de s'ajuster à ces tendances. Mais pour l'instant, moi, il me semble, même si c'est un joueur non repêché, il semble être en meilleure carrière que Mason Rudolph. Recevoir de passe de James Washington, receveur de passe de deuxième année, a connu un fort match du côté des Steelers. 4 réceptions, bonne pour 111 verges. Il a également inscrit un touché. Alors, les Steelers, qui vont être en mesure de participer aux éliminatoires, il reste encore 4 semaines au calendrier régulier. Moi, je suis vraiment impressionné par le travail de Mike Tomlin. Le travail qu'il fait, qu'il est en mesure d'accomplir, malgré le fait qu'il est privé notamment des services de son carrière étoile. En Caroline, les Panthers recevaient les Redskins. Washington a gagné 29-21. Ça, c'est une défaite ben, qui ne peut pas se produire si vous êtes les Panthers de la Caroline, en particulier l'entraîneur-chef Ron Rivera, qui se retrouve sur un siège éjectable parce que la semaine dernière, il y a le nouveau propriétaire des Panthers, Dave Tepper, qui a dit qu'il évaluait présentement la situation, il évaluait son organisation et que lorsque l'équipe perdait à domicile, il disait que ça lui faisait très mal. Alors là, de perdre contre Washington à domicile, Washington qui est une des pires formations de la NFL, avec Dwayne Haskins au poste de quart, ça c'est tout à fait inexcusable du côté de Ron Rivera. Surtout que, bon, c'est pas Haskins qui allait venir, qui allait aller en Caroline et battre les Panthers. Donc, on savait que les Redskins devaient utiliser le jeu au sol, puis ils l'ont fait, puis non seulement ça, ils l'ont fait avec succès. Darius Guice a amassé 129 verges. Je suis content de voir Guice connaître un bon match. C'est un produit de l'Université LSU. Il en est à sa deuxième saison. C'est un joueur que j'aimais beaucoup à LSU. Je croyais qu'il allait devenir un bon porteur de ballon au niveau de la NFL. Malheureusement pour lui, il a subi une blessure à un genou qui lui a fait rater toute la saison dernière. S'était blessé également au début de la saison. Là, il est en santé, puis là, on revoit le même porteur de ballon qu'on avait vu à LSU. Alors, 129 verges au sol pour Darius Guice et 99 verges par la course pour Adrian Peterson. Donc, on a accordé pratiquement là, 100 verges au sol à deux porteurs de ballon du côté de la défense des Panthers, alors que tout ce qu'on avait à faire, c'était d'arrêter le jeu au sol. C'est pas Dwayne Haskins qui allait venir nous battre sur la route. Alors, c'est vraiment là. C'est vraiment inacceptable du côté des Panthers à Caroline. On a été dominé à domicile par Washington. Selon moi, cette défaite-là, ben, c'est le début de la fin pour Ron Rivera, mais également pour le directeur général également du côté des Panthers à Caroline. Ça va être une situation à surveiller en Caroline. Est-ce qu'on va y aller d'un ménage, d'un gros ménage à la fin de la saison? Moi, je crois que oui. Les Buccaneers de Tampa Bay. Eh bien, ils ont facilement vaincu les Jaguars de Jacksonville par la marque de 28-11. Nick Foles, mon Dieu, que ça va vraiment pas bien hein, depuis les revenus au jeu. Foles, hier, il a été cloué au banc, avec raison. Bon, comme je viens de dire, ça va pas bien depuis qu'il est revenu au jeu. Mais hier, c'était vraiment désastreux. Foles a été victime de trois revirements lors des trois premières séquences des Jaguars de Jacksonville. Deux interceptions, un échappé. Alors, on a envoyé Gardner Minshew dans la mêlée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ben, les Jaguars ont annoncé que Minshew allait être le carrière partant la semaine prochaine. Je viens de parler là, des Panthers à Caroline, des Giants de New York, qui, selon moi, pourrait y aller d'un grand ménage au sein de l'organisation une fois que la saison sera terminée. Jacksonville également, là. Surtout l'entraîneur-chef Doug Marrone. Là, on ne peut pas blâmer Jalen Ramsey. Hein? Clairement, Jalen Ramsey n'était pas le problème à Jacksonville. Alors, ça doit être une autre situation à surveiller une fois que la saison régulière sera terminée. Du côté des Bucks, eh bien, Jameis Winston a été limité à seulement un revirement. Il n'a pas été victime d'interception. Mais il a été victime d'un échappé, mais peu importe. On a été en mesure de l'emporter du côté des Bucks pour mettre fin à notre séquence de défaites. Alors, je suis persuadé que ça doit faire le bonheur de l'ami du podcast, Anthony Auclair. Il a vu son équipe gagner une rencontre. En Arizona, les Rams n'ont fait qu'une bouchée des Cardinals. Moi, je croyais sincèrement que les Cardinals allaient rivaliser avec les Rams et peut-être même l'emporter, étant donné qu'il s'agit d'un match entre deux rivaux de section. Maintenant, les Rams sont sortis, puis le match était terminé à la fin du premier quart. Finalement, les Rams ont gagné 34-7. Alors, ça a été une belle façon de rebondir pour Los Angeles après le revers humiliant qu'on a eu contre les Ravens de Baltimore. Le jeu au sol a fonctionné, près de 100 verges au sol pour Todd Gurley. Alors, lorsque le jeu au sol fonctionne et que la protection qu'on offre, une bonne protection à Jared Goff, ben, il est en mesure d'offrir le genre de performance qu'il a offert hier. Bon, il faut dire que oui, c'était juste contre les Cardinals, mais quand même, il a passé pour plus de 400 verges. L'attaque des Rams, c'est pour la première fois depuis le milieu de la saison 2018. Elle avait l'air de l'attaque dominante qu'on avait vue lors de la première moitié de saison de l'année dernière. Donc, c'est une performance encourageante, mais encore une fois, il faut prendre ça avec un grain de sel. C'était contre les Cardinals de l'Arizona. Les Broncos de Denver, ils ont gagné 23-20 contre les Chargers. Encore une fois, ah mon Dieu, les Chargers qui ont inventé une nouvelle façon de perdre. Et il y a un demi-coin qui a une pénalité pour obstruction. Et ça, c'était contre Cortland Sutton. Et ça a mené à un placement victorieux sur 53 verges de Brandon McManus. Alors ça, c'est quand même, c'est pas peu dire ça, un placement de 53 verges pour l'emporter. Alors, ouais, les Chargers, ben, pour les Chargers aussi, là, c'est une autre formation pour qui là, c'est terminé là, cette année. On peut oublier une participation en éliminatoire. Ça a été un autre match difficile pour Philip Rivers. On a une fiche de 4 victoires et 8 défaites. Fiche identique aux Broncos. Alors, on n'aurait jamais cru ça du côté des Chargers. Philip Rivers, 20 en 29, 265 verges. Il a complété deux passes de toucher, 99 verges au sol pour Melvin Gordon. Mais malgré tout, on s'est incliné. Le moment est venu également là, de préparer la fin Rivers, l'après Philip Rivers durant la saison morte. J'ai vraiment l'impression là, du côté des Chargers. Peut-être qu'on va ramener Philip Rivers l'année prochaine, mais si on le fait, eh bien, on doit avoir un jeune quart qui est prêt à le remplacer parce que Philip Rivers, je crois qu'il commence à être au bout du rouleau. Et Cortland Sutton, oui, j'ai mentionné son nom. Écoutez, j'ai pris en note, là, j'ai écrit futur receveur étoile, s'il peut avoir de la stabilité au poste de carrière. Hier, encore une fois, il a réussi des attrapés spectaculaires, notamment un catch à un bras qu'il a réussi pour un toucher. Il s'agissait du premier départ en carrière pour Drew Locke, Locke qui avait été sélectionné en deuxième ronde par les Broncos le printemps dernier. C'est un produit de l'Université du Missouri. Locke qui a effectué de belles choses. On a été patient hein, du côté de Drew Locke. On n'a pas voulu l'envoyer dans la mêlée plus tôt cette saison, malgré le fait qu'on en arrachait du côté des Broncos. On disait qu'il n'était pas encore prêt. Hier, il a démontré des belles choses. On a vu bon, ses qualités athlétiques. C'est un carrière qui est quand même mobile. La force de son bras également, mais certaines de ses passes, on se demandait, mon Dieu, où il lance le ballon. Alors, ça a été rempli de hauts et de bas. Moi, j'étais pas un fan de Drew Locke lors du repêchage l'année dernière. Je me souviens, dans mes notes, j'avais écrit qu'il était le Jay Cutler des pauvres, capable du meilleur ou du pire. Lorsqu'il jouait à Missouri, il était victime d'interceptions. On se demandait, mon Dieu, à quoi qu'il a pensé, pourquoi il a lancé cette passe-là. Un peu comme Jay Cutler. Hier, on a vu ça par moment également, mais quand même. Il s'agissait du premier départ de sa carrière. Il a mené les Broncos à une victoire. Alors, félicitations à Drew Locke pour cette première victoire. Et du côté des Chargers, je vous disais qu'on invente des façons de perdre. Les unités spéciales ont cafouillé. On a échappé à un botté de dégagement qui a fait en sorte que ça donnait un court terrain aux Broncos de Denver. Ensuite de ça, on a été victime d'une rudesse sur le botteur de dégagement des Broncos qui a donné un premier essai, ce qui a permis à la séquence de Denver de se poursuivre. Alors ça, c'est vraiment un signe de manque de coaching lorsque les unités spéciales cafouille de la sorte, comme ça a été le cas pour les Chargers. Et tant que la saison se termine vraiment du côté des Chargers. Les Chiefs, eux, ils ont écrasé les Raiders 40-9. Le match avait lieu au Arrowhead Stadium à Kansas City. Je m'attendais à un match serré. Mon Dieu que j'ai... encore une fois, là, ça n'a vraiment pas été une bonne prédiction de ma part. Les Raiders se sont fait écraser. Le match était terminé, quoi, après le premier quart, là encore. Écoutez, Kansas City a maintenant deux matchs d'avance sur Oakland en tête de la section ouest du côté de l'Américaine. Je me disais pourtant que les Raiders possédaient la formule afin de connaître du succès face aux Chiefs. Je n'étais pas certain que la défense, naturellement, sera en mesure de ralentir l'attaque de Kansas City. Bon, quelle défense est capable de faire ça? Mais je me disais, avec notre grosse ligne à l'attaque et le porteur de ballon Josh Jacobs, ben, on avait la formule afin de courir avec le ballon et de garder Pat Mahomes et l'attaque des Chiefs sur les lignes de côté. Et puis, ben bon, ça n'a pas été suffisant. Jacobs, il a quand même gagné plus de 100 verges, quoi. 104 verges en 17 courses pour Josh Jacobs. Mais Derek Carr, on va devoir prendre une décision, j'ai l'impression, là, du côté des Raiders d'Oakland. Parce que Derek Carr, si le jeu au sol ne fonctionne pas, Derek Carr n'est pas en mesure de transporter l'attaque à lui seul. Et je sais qu'il n'a pas un grand groupe de receveurs. La perte d'Antonio Brown, bon, ça fait mal aux Raiders d'Oakland parce que les Raiders, bien sûr, on pouvait miser sur un receveur de la trempe d'Antonio Brown. L'attaque serait encore meilleure. Mais Derek Carr, lorsqu'on a besoin de lui, plus souvent qu'autrement cette année, il n'a pas livré la marchandise. Alors moi, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire du côté des Raiders durant la saison morte. On a maintenant une fiche de 6 victoires et 6 revers après les 3 premiers tiers de la saison du côté d'Oakland. Dans l'ensemble, je crois que c'est une saison au cours de laquelle on a du succès du côté des Raiders, mais ça a été une belle opportunité qui a été ratée hier en se faisant écraser de la sorte du côté des Chiefs. Et dans le dernier match qui était présenté dimanche soir, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ils ont perdu 28-22 à Houston contre les Texans. Et ce que j'ai retenu de la rencontre, si vous avez regardé ce match-là, je suis persuadé que vous avez remarqué la même chose, c'est à quel point on est dépourvu de talent à la position de receveur du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, mis à part Julian Edelman. Et du côté des Texans, on ne s'est pas cassé la tête. Hein? Le coordinateur de la défense, Romeo Crennel, ben lui, il s'est dit, on va doubler Edelman. Même si Edelman, ce n'est pas un marchand de vitesse, ce n'est pas un joueur qui va étirer la défense de façon verticale, c'est pas grave, c'est la cible favorite de Tom Brady. On va le doubler et on va mettre au défi les Patriots de nous battre avec les autres receveurs de passe. Et on a tout simplement été incapable de le faire. Oui, Tom Brady, il a ralenti, c'est normal. Il est maintenant âgé de 42 ans. Il n'est plus le même joueur qu'il était il y a 3, il y a 5 ans, ou même plus tôt au cours de sa carrière. Mais il reste, selon moi, c'est toujours un bon carrière. Mais c'est juste qu'on est dépourvu de talent à la position de receveur, position d'ailier rapproché également, avec la perte, la retraite de Robert Gronkowski. Et on n'a pas de menace verticale également du côté de l'attaque des Patriots. C'est drôle, je viens de parler des Raiders. Il y a une raison pourquoi les Patriots avaient amené Antonio Brown à la Nouvelle-Angleterre. C'est qu'on avait vraiment un besoin criant la position de receveur. Et ça paraît, là. C'était vraiment évident contre les Texans. Et écoutez, c'est toujours là un pari de dire que, bon, est-ce que c'est le début de la fin pour la dynastie des Patriots? Est-ce que c'est le début de la fin pour les Patriots? Est-ce que la Nouvelle-Angleterre va être en mesure de participer au Super Bowl? On court le risque de paraître ridicule en mettant les Patriots sous question. Je me souviens même l'année passée, à pareille date, au mois de décembre, lorsque je regardais les matchs de la Nouvelle-Angleterre, je me disais, mon Dieu, Brady a l'air vieillissant. Il avait vraiment pas l'air intéressé à se faire frapper. Je me souviens d'un match qu'on avait perdu à Miami face aux Dolphins. Et puis là, les Patriots ont trouvé une formule pour accéder au Super Bowl là, quand même, notamment avec le jeu au sol. On a couru avec le ballon avec succès, là, quoi, une moyenne de près de 5 verges par course contre les Texans, mais c'est vraiment par la passe qu'on n'a pas été capable de créer des jeux du côté de la Nouvelle-Angleterre. Deshaun Watson a connu un bon match, encore une fois. Il est allé de quelques tours de magie. On a tenté de plaquer derrière la ligne de mêlée. Il est en mesure de se débarrasser des plaqués. Il est tellement fort, tellement agile. Alors ça, il s'agit d'une première victoire pour Bill O'Brien depuis qu'il est à la barre des Texans contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il n'avait fait aucune victoire et 4 revers avant le match de dimanche soir. On sait qu'O'Brien a travaillé comme coordinateur à l'attaque des Patriots aux côtés de Bill Belichick. Mais là, pour la première fois, il a le déçu sur Belichick. Alors, des Patriots, c'est ce que j'ai hâte de voir. Il reste un mois, là. Il reste un mois. Il reste 4 semaines, oui, au calendrier régulier. Il reste 4 matchs aux Patriots. Est-ce qu'on va pouvoir redresser la barre? Parce que on ne peut pas trouver d'autres receveurs à ce temps-ci de l'année. À moins qu'on décide d'amener Antonio Brown, mais de le ramener, mais ça, j'en doute. Et lorsqu'on jette un coup d'œil du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les matchs qui nous restent, j'ai ça ici. Alors, on va jouer contre les Chiefs la semaine prochaine, comme je le disais. Le match va avoir lieu au Gillette Stadium. Est-ce qu'on pourra marquer assez de points pour rivaliser avec Kansas City? Ça, c'est ce que j'ai hâte de voir. On sait que les Chiefs, ils en doivent une aux Patriots. Les Patriots qui avaient mis fin à leur saison l'année dernière lors du match de championnat de l'Association américaine. Après ça, on va aller à Cincinnati contre les Bengals. On va affronter les Bills à nouveau. Alors, les Bills, on n'en parle pas, mais les Bills ont une fiche de 8-3. Ils sont tout juste derrière les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je dis 8-3, en fait 9-3 maintenant, à suite de leur victoire contre les Cowboys de Dallas jeudi. Oui, c'est ça, 9-3. Alors, les Bills sont tout juste derrière les Patriots. Alors, est-ce que les Bills pourraient devancer les Patriots et causer une surprise et terminer au premier rang de la section S de l'Américaine? Ça reste à voir, mais le calendrier est relativement facile pour les Patriots. Alors, match contre les Chiefs, les Bengals et les Bills, ça va être le match clé. Après ça, on termine en recevant les Dolphins de Miami pour terminer le calendrier régulier. Alors, ça va être à surveiller du côté de la Nouvelle-Angleterre, mais vraiment, je ne crois pas nécessairement que Tom Brady est à blâmer du côté de l'attaque des Patriots. Comme je le disais, je sais qu'il est vieillissant, mais on n'a simplement pas de talent, position de receveur, d'ailier rapproché. Et je ne crois pas qu'on sera en mesure de trouver des solutions à tout ça. Alors, écoutez, on a fait le tour pour ce qui est de la NFL. Du côté de la Ligue canadienne de football, eh bien, les Lions de la Colombie-Britannique ont annoncé plus tôt aujourd'hui qu'ils ont mis sous contrat l'entraîneur-chef Rick Campbell, l'ancien entraîneur-chef du côté du Rouge et Noir d'Ottawa. Bien, Campbell se retrouve maintenant à Vancouver. Donc, d'une certaine façon, il est réuni avec Ed Irvey. Les deux hommes se connaissent bien puisque Irvey est un joueur avec les Eskimos de Edmonton. Lorsque Rick Campbell Travaille également pour les Eskimos d'Edmonton. Alors, j'ai bel et bien l'impression que Jason Mas va probablement s'amener à Vancouver également à titre de coordonnateur à l'attaque. Ça reste à voir. Du côté des Alouettes, eh bien, ils continuent leur recherche afin de trouver un directeur général. On a commencé à contacter les équipes afin d'avoir des permissions pour interviewer les candidats. On va voir si les Alouettes vont pouvoir mettre fin à ce dossier, régler ce dossier d'ici à la période des fêtes. Alors, laisse quand même 3 semaines. Mais ça va être un dossier qu'on va continuer de suivre au cours des prochaines semaines. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, j'espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. C'était un épisode écourté. Je vais essayer de vous de trouver un invité pour la semaine prochaine. Il faut dire qu'on avait moins de matchs de la NFL en ce dimanche, étant donné qu'il y avait 3 matchs qui ont eu lieu jeudi. C'était l'action de grâce du côté des États-Unis. Alors, le dernier quart de la saison de la NFL qui va s'amorcer le week-end prochain. On s'approche des éliminatoires. Il y a plusieurs rencontres qui sont à surveiller, notamment les 49ers de San Francisco qui vont rendre visite aux Saints à la Nouvelle-Orléans. Ça va être dimanche prochain à 13h. Alors, j'espère que cet épisode du Sac du Quart vous a plu. On se reparle la semaine prochaine.